Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous solennisons aujourd'hui l'Épiphanie, à savoir la manifestation du Seigneur. Et c'est effectivement une belle manifestation à tous ceux qui attendaient le Seigneur, peut-être de manière implicite, mais réelle. À tous ceux qui, dans l'humanité, sont de bonne volonté, qui n'ont pas reçu une révélation spéciale, comme le peuple juif, mais qui sont, j'allais dire, de bons païens, c'est-à-dire des gens qui se laissent diriger par la grâce intérieurement à eux, et qui, avec les lumières de leur conscience et leur raison, avancent, progressent. Et notre Seigneur, ou plutôt le bon Dieu, j'allais dire, eh bien, va guider progressivement certains jusqu'à le retrouver de manière explicite. Et cela est extrêmement beau de voir et de contempler aujourd'hui la manière dont agit la providence divine à notre endroit. Il y a diverses manières pour elle de nous toucher, de nous amener à découvrir toujours plus la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous voyons les mages, nous voyons qu'ils avancent vers notre Seigneur. Le premier point, la première chose qui est de leur fond propre, ça va être, mais c'est la Providence qui veut cela, cela va être qu'ils vont voir une étoile. Phénomène qui, a priori, est un phénomène purement naturel, mais ils vont être touchés par ce phénomène naturel parce que leur devoir d'État, j'allais dire, ce sont des mages, eh bien, ce sont des gens qui s'occupent justement des étoiles. Ils cherchent à savoir ce que veulent dire les étoiles, ils cherchent à gouverner le monde à partir de cela. Peut-être que cela n'est pas très intelligent en soi, peut-être que cela n'est pas la meilleure manière de gouverner que de le faire à partir des étoiles. Néanmoins, en étant fidèle à l'intuition qui est la leur, à savoir que c'est une étoile extraordinaire, à partir de leur devoir d'État, j'allais dire, correctement accompli, ils vont trouver notre Seigneur. La Providence se sert de cette petite étoile qui va les intriguer à tel point qu'ils vont aller et la suivre, c'est-à-dire quitter leur domaine, quitter leur royaume peut-être, parce que les mages étaient souvent des princes, des rois, ils vont quitter tout cela pour suivre ce qui leur semble être quelque chose d'extraordinaire. À partir d'une étoile, notre Seigneur les guide jusqu'à Jérusalem. Et à Jérusalem, là, la Providence se sert d'autres personnes. J'allais dire, il se sert de deux points particuliers. Il va se servir d'Hérode, des scribes, des pharisiens, des docteurs de la loi, et tous ces gens qui sont, en principe, au courant de ce qui va arriver, de toutes les prophéties, les mages vont tout simplement demander, avec une candeur extraordinaire, au roi Hérode, où est le roi des Juifs, celui qui doit naître. Eh bien, ici, Hérode, dont nous savons les épisodes qui suivent, à savoir le massacre des saints innocents, Hérode, ce mauvais qui déjà reçoit cette annonce comme étant en concurrence avec sa propre royauté, eh bien, Hérode va être celui qui va leur faire découvrir la révélation, c'est-à-dire la prophétie qui était sur la ville de Bethléem. Voyez comment la Providence peut non seulement se servir de phénomènes naturels pour nous guider. Voyez comment il peut se servir aussi des méchants. Tout est dans la main de Dieu, le cosmos, mais aussi les méchants. Et à partir d'Hérode, eh bien, ils vont être en contact avec la révélation de Dieu. On va leur dire qu'effectivement, c'est à Bethléem, c'est de Bethléem de Juda, eh bien, que va naître le Sauveur. Et ils vont pouvoir ensuite, eh bien, se diriger jusqu'à Bethléem, à nouveau avec une étoile qui va s'arrêter au-dessus, eh bien, de là où est notre Seigneur. À partir de là, eh bien, ils contemplent notre Seigneur lui-même. Et lorsqu'ils vont retourner, regardez bien, il va y avoir à nouveau une manifestation de la Providence, puisque c'est dans un songe qu'ils vont être avertis de ne pas retourner vers Hérode. Peut-être que dans notre vie, Nous n'avons pas autant de manifestations, j'allais dire, du divin de manière aussi explicite. Il n'en reste pas moins vrai que la Providence continue toujours de nous exaucer, continue toujours de nous diriger, pas forcément là où nous voudrions aller. Peut-être qu'on aurait préféré que cette étoile aille directement à notre Seigneur. Pourquoi passer par Hérode? Pourquoi passer par la révélation? Eh bien, peut-être pour montrer que nul ne doit faire fi de la révélation et qu'à un moment donné, il faut être en contact avec la révélation pour pouvoir se convertir au Christ. Et à partir de ce moment-là, eh bien, une fois qu'on a rencontré notre Seigneur ne nous laisse pas tomber, il y a ce songe qui est chez les mages, qui leur avertit la conduite à tenir. Et en effet, ils n'ont plus besoin de passer par certains intermédiaires parce qu'ils ont celui qui est la véritable lumière. Ils n'ont plus besoin de l'étoile qui les guide parce que désormais, c'est le Christ lui-même qui va les guider. C'est le Christ lui-même qui est devenu leur lumière. Et on pourrait prêcher sur l'épiphanie sans voir aussi eh bien, que par rapport à la Providence, leur cœur était ouvert. Ils suivent l'étoile, ils accueillent la révélation transmise par les scribes et les pharisiens. Ils accueillent, en fait, tout ce que notre Seigneur leur a préparé. Et leur cœur est pur et leur cœur est droit, à tel point qu'ils veulent même rendre hommage à ce roi par trois sortes de présents. Vous les connaissez par cœur parce que depuis que vous êtes enfant, vous voyez ces rois mages à la crèche qui apporte l'or, l'encens et la myrrhe. L'or, vous le savez, parce qu'on le répète tous les ans, l'or symbolise la royauté de notre Seigneur. Tout ce qui est doré a un rapport, j'allais dire, parce que c'est l'argent, c'est l'éclat du pouvoir aussi, eh bien, tout cet or, c'est celui qui touche à la royauté de notre Seigneur. En lui offrant de l'or, ils se dessaisissent de leur propre fortune pour la donner à notre Seigneur, ou plutôt, j'allais dire, pour lui rendre, parce qu'ils comprennent que tout ce qu'ils ont en tant qu'hommes, eh bien, vient en fait en source de notre Seigneur. Leur propre royauté, leur propre supériorité, principauté, je ne sais pas comment il faut dire, parce qu'on n'a pas d'explicitation sur leur royaume, eh bien, tout cela vient de la royauté de notre Seigneur. Ce n'est pas un dessaisissement, j'allais dire, de leur propre fortune pour la donner à quelqu'un, c'est véritablement reconnaître que cette royauté vient de la royauté de notre Seigneur lui-même. C'est toute leur autorité, j'allais dire, qu'ils le reconnaissent comme venant de Dieu. Est-ce que souvent dans nos vies, nous qui sommes souvent en situation d'autorité, nous savons aussi reconnaître l'autorité de notre Seigneur? Est-ce que dans nos prières, nous arrivons à lui remettre notre paternité, notre maternité, notre devoir d'État lorsque nous commandons une équipe ou lorsque nous avons des responsabilités dans une entreprise? Est-ce que nous lui remettons tout ce pouvoir comme en lui disant, eh bien Seigneur, tout cela, je le tiens de vous? Nous le faisons dans la liturgie. Dans la liturgie, tout ce qui est en contact direct avec notre Seigneur, avec les saintes espèces, est toujours doré. Et d'ailleurs, les normes liturgiques sont extrêmement précises, même les nouvelles. Alors, il faut eh bien, toujours regarder cela. Un calice, la coupe intérieurement, est toujours dorée. La patène est toujours dorée. Et même le plateau de communion est toujours doré, parce qu'il peut recevoir quelques parcelles d'hostie. Alors, dans la liturgie, nous reconnaissons vraiment la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ. L'encens. Et oui, c'est le deuxième présent que les rois mages vont offrir à notre Seigneur. L'encens symbolise la divinité du Christ. Non seulement le Christ est roi, mais il est véritablement Dieu. Et ici, il y a quelque chose de bien particulier chez les rois mages, chez les mages. Ils offrent cet encens pour reconnaître la véritable personnalité de notre Seigneur. Le Christ n'a qu'une seule personnalité, il n'y a qu'une personne dans le Christ, elle est divine. Il n'y a pas de personnalité humaine dans le Christ. Il est une personne divine incarnée dans une nature humaine. Mais la personne du Christ est véritablement divine. Eh bien, les rois mages accueillent cela. Ils reconnaissent de manière implicite, mais aussi explicite, dans une certaine mesure, cette divinité du Christ. Et bien aussi, dans la liturgie, nous voyons, et nous devons reconnaître déjà dans notre propre prière, et bien cette divinité du Christ, et dans notre agir, et dans notre manière de nous tenir aussi à l'Église, toujours cette divinité du Christ, lorsque nous recevons principalement la communion, mais aussi, bien nous voyons, à travers l'encens, et bien qui est usé dans la liturgie, et bien et utilisé dans la liturgie, et bien nous voyons que nous reconnaissons ici, dans cette liturgie qui est le lieu propre de l'honneur rendu à Dieu, que nous le reconnaissons comme véritablement Dieu. Il est encensé, la croix est encensée, le Saint-Sacrement est encensé. Et me direz-vous, mais pourquoi, au final, le prêtre est encensé? Ce n'est pas très compliqué, c'est parce qu'à l'autel, il représente véritablement le Christ lui-même. Mais alors, il reste encore une question, pourquoi les fidèles sont encensés? Eh bien parce que, du fait que vous êtes baptisés, eh bien, il y a une participation aussi au sacerdoce du Christ, dans une certaine mesure, encore une fois. Et alors, eh bien, puisque vous faites partie du corps mystique du Christ, vous êtes aussi, dans une certaine mesure, le temple du Saint-Esprit. Et pour cela, eh bien, vous êtes encensés. Alors voyez combien eh bien, cela est lié, et combien cela est grand, et combien l'honneur du chrétien et la dignité du chrétien est grande, parce que vous êtes en lien vivant avec notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, vous participez dans une certaine mesure, si vous êtes en état de grâce, avec la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Voilà pourquoi eh bien, la dignité de l'homme, elle est grande, elle est belle, mais elle doit toujours nous renvoyer à celui qui en est la source, à savoir notre Seigneur lui-même. Enfin, eh bien enfin, nous offrons avec les rois mages, eh bien, après l'or et l'encens, la myrrhe. La myrrhe, eh bien, reconnaît l'humanité du Christ. À quoi va-t-elle servir? À ensevelir notre Seigneur, ou plus précisément, à embaumer le corps de notre Seigneur. Vous savez qu'on ne parle jamais de cadavre du Christ, parce que son corps, même séparé de l'âme, était toujours uni avec la personne même du Verbe, avec sa personne divine. Aussi, nous parlons toujours du corps du Christ. Et ce corps avait besoin d'être embaumé, parce que le corps humain doit être respecté. Aussi, lorsqu'ils offrent cette myrrhe, eh bien, implicitement, ils ne le savent pas, mais c'est déjà le geste que va ensuite reproduire dans une certaine mesure, excusez-moi de répéter cela, mais que Sainte Marie-Madeleine, lorsqu'elle va être avec son parfum et qu'elle va répandre cela aux pieds de notre Seigneur. Et encore ce geste lui-même était en préfiguration de celui qu'elle allait accomplir avec les saintes femmes, embaumer le corps du Christ avant de l'ensevelir. Oui, le Christ s'est véritablement incarné. Oui, Dieu s'est véritablement fait homme, et cette chair qui a souffert pour nous est véritablement chair humaine. Elle a vraiment souffert, elle nous a vraiment sauvés. Et nous devons lui rendre tous les honneurs qui lui sont dus. Voilà pourquoi eh bien, nous devons nous approcher, nous qui avons sans doute été confirmés et qui avons reçu une onction d'huile mêlée de Saint-Crème, c'est-à-dire de baume, le Saint-Crème et l'huile plus le baume, plus cette myrrhe aussi qui en fait partie, eh bien, du fait que nous sommes véritablement confirmés, nous avançons vers l'Eucharistie avec un grand désir de reconnaître le corps même de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, mes bien chers amis, en cette belle fête de l'Épiphanie, soyons dociles à la Providence qui nous mène au Christ, soyons dociles au Christ et reconnaissons-le pour ce qu'il est véritablement, vrai Dieu, vrai homme et vrai roi, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.